Alors, donc, l'enseignement d'aujourd'hui a aussi comme but, outre ce que le Père Benoît vous a dit, de montrer à quel point les expériences vécues par Marguerite Marie, sa vocation exceptionnelle, ce n'est pas un événement qui a eu lieu comme ça, sans racine, au XVIIe siècle. Toutes les révélations privées, et surtout tous les messages, par exemple, surtout à Paray-le-Monial, justement, qui sont aussi essentiels, la révélation du Sacré-Cœur est très profondément enracinée dans la Sainte Écriture, en fait. D'ailleurs, c'est une constante dans l'histoire de l'Église qu'aucune révélation privée n'apporte une révélation supplémentaire. Tout est déjà contenu dans la révélation avec un grand R, consigné par les Écritures d'une part et constamment interprété par la tradition de l'Église. Donc il n'y a absolument rien dans le message de Paray-le-Monial qui ne puisse d'une certaine façon être, dont on ne trouverait une résonance, un fondement dans la Sainte Écriture. Alors sans développer cela comme je le fais dans d'autres endroits, juste pour dire ceci. Le cœur de Jésus transpercé par la lance, c'est la parole de Dieu lui-même. Il s'est fait chair et elle s'ouvre. Et selon saint Thomas d'Aquin, repris par le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 112, jusqu'à la passion du Christ, l'Écriture était encore voilée. Elle livrait déjà une grande partie de son sens, bien sûr. Mais la plénitude de sens, il a fallu, dit saint Thomas d'Aquin, la déchirure de la passion. Et donc on pourrait considérer en fait le cœur de Jésus ouvert comme le livre des Écritures, mais alors qui maintenant livre tout son sens plénier, symbolisé par le sang et l'eau. Voilà, et ça peut un peu être confirmé par la parole que Jésus dit lui-même à Marguerite Marie. Un jour qu'elle cherchait un ouvrage pour alimenter son oraison, il lui a dit, en lui montrant son cœur, « Voilà le livre où tu liras toute la science de l'amour. » Comme s'il lui disait, « Tu n'en as pas besoin d'un autre. » Le livre ouvert. D'ailleurs, ça peut nous... On ne va pas faire trop d'exploration, mais ça peut nous amener aussi au livre de l'Apocalypse, le fameux livre aux sept sceaux que seul l'agneau immolé est capable d'ouvrir. Ça peut être une allusion à son cœur. Lui seul peut ouvrir ce livre. Alors c'est un soldat qui l'a ouvert, mais enfin, par permission, bien sûr, par volonté de Dieu. Donc cette parole, en tout cas, que Jésus dit à Marguerite Marie, « Voilà le livre où tu liras toute la science de l'amour », c'est une parole qui a ravi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus deux siècles plus tard. Elle était dans la même situation, elle était très sèche pendant une oraison, elle cherche autour d'elle, comme ça, un ouvrage, elle tombe sur l'autobiographie de Marguerite Marie, elle tombe sur ce passage, et alors elle s'écrit « Oh, la science de l'amour, la seule que je cherche ». Et on la trouve dans le cœur de Jésus, puisque c'est le cœur de la parole faite chair, le cœur ouvert, de la parole désormais ouverte, qui donne tout. Donc déjà, on peut dire que le message de Paray-le-Monial et ce qu'a reçu Marguerite Marie est profondément, intensément scripturaire, si vous voulez. Dans un premier temps, une première partie, je vais balayer certaines paroles de Jésus à Marguerite Marie ou certaines paroles de Marguerite Marie elle-même en faisant tout simplement les correspondances avec les passages de l'Écriture qui résonnent dans ces paroles, avec quelques petits commentaires. Et en deuxième partie, alors je ne sais pas trop combien de temps j'ai devant moi parce qu'il y a les groupes de partage, puis vous avez la messe à 11h15, je vais approfondir la thématique qui finalement est prédominante en Marguerite Marie, c'est la thématique du feu, la fournaise, la brûlure de l'amour du cœur de Jésus. Et là, nous allons nous y attarder, de toute façon c'est un thème sans fin, ce sera nécessairement inachevé, mais nous allons prendre le temps, nous allons le faire dans le temps qui nous est imparti. Alors tout d'abord, une thématique qui n'est pas celle du feu, Jésus dit « Je t'ai choisi pour mon épouse et nous nous sommes promis la fidélité lorsque tu m'as fait vœu de chasteté. C'est moi qui te pressais de le faire avant que le monde ait eu aucune part dans ton cœur. » De fait, Marguerite Marie a reçu sa vocation à 5 ans, au cours d'une messe privée célébrée dans la chapelle de sa marraine, Madame de Corcheval. Et même si elle n'a pas compris intellectuellement ce que ça signifiait, elle savait quand même ce que c'était cette consécration, qu'elle n'aurait pas de famille, qu'elle serait totalement donnée à Dieu. Et justement, « C'est moi, dit Jésus, qui te pressais de le faire avant que le monde ait déjà une influence en toi. Car je voulais ton cœur tout pur, sans être souillé des affections terrestres, pour me le conserver comme cela. J'ôtais toute la malice de ta volonté, afin qu'elle ne le pût corrompre ton cœur, etc. » Et puis surtout, et je le dis aujourd'hui, « Et puis je te mis en dépôt aux soins de ma Sainte Mère, afin qu'elle te façonnât selon mes desseins. » Alors ce qu'on trouve ici, surtout, c'est le thème des épousailles. Ça, c'est très clair que dans les paroles de Jésus résonnent les paroles dont il est lui-même l'auteur. Je vous rappelle que l'Écriture inspirée a pour auteur, en fait, le Verbe divin, éternel. Et cela même avant son incarnation, c'est évident. Donc « Je t'ai choisi pour mon épouse », ça fait appel à beaucoup de passages du Cantique des Cantiques, hein, sur le bien-aimé et la bien-aimée. L'épouse qui est sans tache, la fiancée, « Montre-moi ton visage, toi qui es caché dans les rochers, escarpé. » Voilà, et puis, donc c'est une déclaration d'amour dont déjà la tradition juive y voit le dialogue entre Dieu, le bien-aimé, et Israël, son peuple, la bien-aimée. Mais il y a déjà une résonance claire aussi, surtout nous nous sommes promis la fidélité au moment dramatique de cette alliance symbolisée par les épousailles dans l'Ancien Testament, et nous avons le livre d'Osée. Tout le début du livre d'Osée est une plainte de Dieu face justement à son épouse infidèle, qui symbolise donc le peuple d'Israël qui n'a pas été fidèle à l'alliance avec Moïse. D'où la nécessité d'une alliance nouvelle, renouvelée. Et alors le très fameux passage de Osée 2, du chapitre 2, « C'est pourquoi mon épouse infidèle, je l'amènerai au désert, je lui parlerai à son cœur. Là, elle me répondra comme au jour de sa jeunesse. Et elle deviendra de nouveau fidèle, elle m'appellera vraiment mon maître, elle m'appellera plus mon Baal. » Voilà, elle ne se tournera plus vers les idoles. Donc là, il y a les Osée 2, vous pouvez au moins noter les références que je vous donne, vous n'êtes pas obligé de noter tous les commentaires que je donne, mais Cantique des Cantiques, c'est l'ensemble. Et Osée 2, sur l'épouse infidèle qui redevient fidèle. Et là, dans la perspective de la nouvelle alliance, dans l'histoire de l'Église, alors Dieu en Marguerite Marie, Jésus en Marguerite Marie se choisit une épouse dont il s'assure de sa fidélité. Le thème des épousailles peut aussi éventuellement être vu dans le psaume 45 dans votre Bible, 44 dans la liturgie. C'est le fameux psaume royal. Toute la première partie, c'est pour le roi. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. Voilà, tu cours le monde avec la vérité, tu combats pour la vérité. C'est pourquoi Dieu t'a consacré d'une onction supérieure à celle de tes compagnons. Mais la deuxième partie est entièrement « Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Voilà, oublie ta maison et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Prosterne-toi devant lui, fille de Tyr. » Donc, et ça, toute la tradition de l'Église l'applique à la Vierge Marie, comme elle applique la première partie à Jésus, celui qui court et qui combat pour la vérité. Et la deuxième partie, c'est un psaume d'épousailles, en fait, qui, selon certaines traditions, effectivement, rappelle les noces de Salomon. Donc voilà. Ensuite, maintenant, le passage bien connu de la première grande apparition. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre. Alors pour retirer de l'abîme de perdition. Alors là encore, mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Le passage scripturaire qui nous vient, je dirais spontanément à l'esprit, c'est d'abord bien sûr le passage de Luc chapitre 12 verset 49. Jésus dit exactement la même chose avec d'autres mots. Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme déjà je voudrais qu'il soit allumé. Donc cette sorte de sainte impatience que le monde soit déjà embrasé, il a soif de faire connaître. Donc déjà là, il semble dire je ne peux pas attendre, je ne peux plus contenir cet amour en moi. Eh bien, il le dit avec d'autres mots à Marguerite Marie. Ce feu, et qu'est-ce que c'est que ce feu en fait? Si nous avons le temps, nous le verrons, c'est l'Esprit Saint. Le message de Parilmonial, le cœur de Jésus, comme une flamme, c'est l'Esprit Saint, c'est Jean-Paul II qui nous le dit. C'est la flamme de l'amour trinitaire en lequel le Père embrasse le Fils embrasse le Père dans le feu de l'Esprit Saint. Alors maintenant, dans l'Ancien Testament aussi, mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes. Nous trouvons ici un passage clé que nous retrouverons plus tard encore. C'est le fameux chapitre 11 de Osée qui est le passage de l'Ancien Testament qui se rapproche le plus de la révélation du cœur de Jésus, puisque c'est le cœur de Dieu dont il est question ici. Mon cœur en moi est bouleversé, dit Dieu, face au péché d'Israël et d'Éphraïm, qui est mon peuple est cramponné à son infidélité. On les appelle d'en haut, pas un qui se relève. Que te ferai-je? Est-ce que je vais te traiter comme naguère, ou comme j'ai traité d'autres nations? Et puis alors voilà, la confession, si on peut dire, de Dieu. Mon cœur en moi est bouleversé. Une meilleure traduction, un peu plus complexe, mon cœur se retourne contre moi. C'est très mystérieux. Comme si la miséricorde se retournait contre la stricte justice de Dieu. La stricte justice voudrait qu'il châtie cet enfant rétif qui ne se convertit pas, qui est Israël. Eh bien, mon cœur se retourne contre moi. Non, je ne viendrai pas avec fureur. Je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non pas homme. C'est la passion du cœur de Dieu. Le chapitre 11 de Osée est ce qui nous rapproche le plus de Parilmonial. D'ailleurs, le chapitre 11 de Osée, si je n'ai pas le temps de lire plus tard, c'est ce qui prépare, en fait, presque littéralement, l'épisode du dernier repas, où Jésus, donc, où on voit Jean reposant sur le cœur de Jésus. Parce qu'en fait, quand Jésus, s'étant remis à table après le lavement des pieds, dit, Saint Jean nous dit que Jésus fut troublé, bouleversé. En fait, la vraie traduction qui est très forte, c'est Jésus fut bouleversé au plus profond de ses entrailles. C'est ça que le grec signifie. C'est pas un simple petit trouble comme ça, superficiel. Il est bouleversé au plus profond de ses entrailles. Et il dit, un de vous me livrera. Justement, c'est Osée 11 actualisé à ce moment-là. La passion de Dieu, il sait qu'un des siens va pas seulement être endurci, mais va le trahir. Et il est bouleversé. Son cœur se retourne en lui. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il ne dénonce pas publiquement Judas. Il ne dit pas aux autres, vite, empêchez-le de faire le mal ou arrêtez-le, je ne sais pas quoi, pas du tout. C'est le cœur de Dieu qui laisse la liberté et qui est saisi de bouleversement face au péché de ses enfants. Donc Osée 11, vous le relirez à l'occasion. Il y a aussi la parole « Je te constitue héritière de mon cœur », dit Jésus. C'est une parole très forte parce que l'héritier, c'est ce qu'il y a de plus haut. L'héritier, c'est celui qui reçoit pleinement le trésor dont qu'il reçoit en héritage. Il peut puiser là-dedans sans aucune limite. Il puise là-dedans. C'est une ouverture totale que fait Jésus. Et là aussi, ce n'est pas simplement une belle révélation privée au XVIIe siècle, à un moment donné de l'histoire de l'Église, c'est signe de l'élection et de l'alliance. Israël est le peuple royal, prophétique, sacerdotal. C'est sa vocation. C'est le seul peuple dans toute l'histoire de l'humanité. C'est notre foi qui nous dit ça, bien sûr. C'est une grille de lecture spirituelle. C'est le seul peuple qui a été suscité uniquement pour Dieu. Sa seule raison d'être, c'est d'être la parole de Dieu. C'est d'être la révélation de Dieu dans le monde. D'être le peuple pour Dieu. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et puis Deutéronome, comme un leitmotiv, rappelez-vous, vous êtes un peuple consacré à Dieu, etc. Il n'y a pas d'autre raison d'être, bibliquement parlant, pour Israël, que d'être le peuple de Dieu et pour Dieu. Donc, peuple royal, parce qu'il représente la seule royauté qui est celle de Dieu. La royauté dans le monde. Les nations ne le savent pas, justement. Elles sont dans l'ignorance et dans l'idolâtrie. Il est peuple prophétique parce qu'il dit la parole de Dieu. Il est peuple sacerdotal parce qu'il est médiateur entre Dieu et le reste des nations et des hommes. Il rend Dieu visible. Il est complètement du côté des hommes, puisqu'il est Israël, il est sur la terre. Et il est complètement du côté de Dieu parce qu'il reçoit la parole de Dieu. Et alors là, donc, je te constitue héritière de mon cœur. C'est la vocation, en fait, d'Israël qui est là. Élection et alliance. Par exemple, entre bien, bien d'autres exemples, c'est la vocation des prophètes. Quand, par exemple, Dieu dit « Je mets mes paroles dans ta bouche », ce que d'ailleurs Jésus reprendra d'une toute autre façon, les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui les dis. Ce n'est pas de moi que je les dis. Je dis ce que le Père me dit. Donc, Jésus est vraiment par excellence le prophète, le grand prophète. Et donc, Marguerite Marie, apôtre du cœur de Jésus, messagère du cœur de Jésus, dans cette dimension particulière de la révélation du cœur, elle est vraiment celle qui dit le cœur de Jésus, qui dit la parole même du cœur de Jésus. Je te constitue héritière de mon cœur. C'est une très haute vocation. C'est une parole que vous pouvez lire tout à fait en voûte, en arcade, au-dessus de la chasse de Marguerite Marie dans la chapelle des apparitions. Alors évidemment, une autre parole qu'on peut lire sous la chasse, « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Là, je pense que presque spontanément, vous faites le parallèle avec ce que Jésus dit à Marthe au moment de la résurrection de Lazare. Marthe qui a des réticences quand Jésus dit « Enlevez la pierre du tombeau », mais Seigneur, il y a déjà 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Et Jésus la reprend avec une certaine véhémence. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Et alors là, il dit à Marguerite Marie, « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Donc vous voyez, le but de cet enseignement qui sera nécessairement inachevé, parce qu'il y a une richesse énorme du point de vue scripturaire, tout simplement, il y a des variations, et ça ouvre chaque citation scripturaire ouvre d'autres. C'est une clé, et c'est sans fin, finalement. Mais le but, c'est que désormais, vous n'abordiez plus le message de Parhelmonial uniquement dans son contexte purement historique ou même mystique et circonstancié, mais que ça fasse constamment résonner en vous la parole de Dieu et un amour accru pour la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, donc, je reprends, comme dit le catéchisme, et comme disait saint Thomas d'Aquin, qui est cette parole même qui vient de Jésus, de sa passion. Voyez ? Jésus dit à un moment donné, alors je vais vous le citer exactement, voilà, il dit à Marguerite Marie, « Si jusqu'à présent tu n'as pris que le nom de mon esclave, je te donne celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. » Je te donne celui de la disciple bien-aimée de mon Sacré-Cœur. Alors, en ces temps où aussi pendant cette année, on médite beaucoup sur l'amitié, d'abord, il y a le fameux passage de Jean 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Car le serviteur ignore ce que fait son maître, tandis que moi, je vous ai révélé ce que j'ai reçu de mon Père. Mais surtout, disciple bien-aimé de mon Sacré-Cœur. » Alors là, évidemment, nous avons la révélation du disciple bien-aimé. Le premier disciple bien-aimé, c'est Saint Jean. Le premier disciple bien-aimé, c'est Saint Jean, qui entre en scène, si je peux dire, dans les Écritures, au chapitre 13 de l'Évangile dont il est l'auteur, au moment du dernier repas. Le disciple, celui que Jésus aimait. Alors là, le lien est très fort avec le message de Parelmonial, ne serait-ce que d'abord parce que la première grande apparition a eu lieu le jour de liturgique, de la mémoire liturgique de Saint Jean, un 27 décembre, et que parmi les trois grandes expériences mystiques que Marguerite Marie a vécues pendant cette première grande apparition, elle a reposé, dit-elle, un long temps, elle a eu la grâce de reposer un long temps sur le cœur de Jésus, justement comme Saint Jean. Et ce n'est pas neutre que quand vous pénétrez dans la chapelle des apparitions, encore dehors, le tympan au-dessus de la porte principale représente la Sainte Seine et on voit très clairement Jean reposant sur le cœur de Jésus. Mais plus profondément que cela, le disciple bien-aimé, Jean chapitre 13. Cet épisode, et là je me réfère à une méditation du père Martin Prader, qui a énormément étudié d'abord le message de Parelmonial, le cœur de Jésus, et l'évangile de Jean, qui dit qu'on trouve tous les ingrédients relatifs à la deuxième grande apparition. C'est au cours de cette deuxième grande apparition que Jésus, donc un premier vendredi du mois, se plaint à Marguerite Marie, disant « J'ai montré tout mon amour dans le sacrement de l'amour, c'est-à-dire l'Eucharistie, et de beaucoup, je ne reçois que ingratitude, indifférence, froideur, négligence et oubli. Toi, du moins, efforce-toi de consoler mon cœur. » Et là, ce sont les paroles de Jésus, « en me rendant amour pour amour. » Donc, il demande à Marguerite Marie de faire réparation. Alors, le père Martin Prader dit que dans l'épisode, dans la scène du dernier repas, on a les deux situations. On a le summum de l'ingratitude, avec la trahison de Judas, qui était pourtant un disciple bien aimé, comme les autres, choisi par Jésus, et qui trahit. Mais vous avez aussi le premier consolateur qui console le cœur de Jésus, Saint Jean qui demeure, qui repose sur le cœur de Jésus et qui est là, qui ne dit rien, qui entre dans le silence, bouleversé lui-même parce qu'il perçoit le bouleversement du cœur de Jésus. Et il va être tellement intérieurement, on pourrait dire invisiblement transpercé, le disciple bien-aimé, qu'il va rester au pied de la croix, lui, alors que tous les autres vont fuir. L'amour parfait bannit la crainte. Donc il reste au pied de la croix, jusqu'au bout. Donc il est le premier consolateur. Il demeure. Et donc, en quelque sorte, dans ce sens-là, on peut dire que Marguerite Marie est vraiment comme l'héritière direct de Saint Jean. Alors, maintenant, nous en venons à ce qui est un petit peu central. En tout cas, à mon avis, la thématique qui prédomine, c'est le feu. La deuxième grande apparition, avec la vision du cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. Fournaise ardente de charité. Alors là, les résonances sont très grande. D'abord, je rappelle que le feu est un symbole de l'Esprit-Saint, un des nombreux symboles de l'Esprit-Saint, comme l'eau ou le vent. Mais là, c'est le feu qui nous importe. Ce cœur rempli d'un feu d'amour, d'où jaillissent des flammes d'amour de tous côtés. Mon divin Sauveur m'apparut tout resplendissant de gloire, dit Marguerite Marie, par rapport à cette deuxième grande apparition. Alors ces cinq plaies étaient comme cinq soleils, et la plaie du côté était comme une fournaise ardente, d'où s'échappaient toutes sortes de flammes. Une antienne du cantique de Zacharie dans l'office de l'aude dit « De ton cœur naît l'Église à l'image de Dieu, toi seul tu baptises dans l'Esprit et le feu. » En fait, c'est tiré de l'Évangile où c'est Jean-Baptiste qui annonce « Moi je vous baptise dans l'eau, mais vient celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint ou dans le, qui vous baptisera dans le feu. » Donc le feu ici. Alors, fournaise ardente de charité. Le premier passage de l'Ancien Testament qui nous vient à l'esprit, c'est le célèbre épisode du buisson ardent. Exode 3, versets 1 à 5. Avec justement la révélation du nom divin, le nom de Dieu, je suis. Mais Jean, lui, surtout dans sa première épître, donnera un autre nom essentiel. On pourrait dire qu'il coïncide avec « Je suis, Dieu est amour », parce qu'il n'est que ça. Il n'y a pas d'autre réel attribut. Dieu est amour. Il est, mais il est parce qu'il est amour. Pur amour, donc pure vie, plénitude d'existence par lui-même, sans aucune provenance. Donc le buisson ardent avec la révélation du nom divin. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même. Dans ses controverses avec les autorités juives, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire quand il sera crucifié, vous verrez que je suis, c'est la révélation, c'est pas simplement que je suis le Fils de Dieu, vous verrez que je suis avec le suis, avec un majuscule. Voilà, je suis celui qui suis. Donc, la révélation du nom divin. Il suffit de rappeler que c'est du milieu du buisson ardent et de la flamme que la voix de Dieu se fait entendre à Moïse, lui révélant sa mission et le nom divin que le peuple élu recevra en héritage. Alors il est vrai que la tradition de l'Église a souvent vu dans le buisson ardent, qui ne se consume pas, un symbole même du mystère de l'incarnation. C'est-à-dire la divinité, dans le mystère de l'incarnation, la divinité ne détruit pas l'humanité de la personne du Christ, en laquelle sont unies les deux natures, humaine et divine. Et aussi, de manière analogue, la tradition voit dans ce symbole la maternité unique de Marie, c'est-à-dire que le Verbe divin qui se fait chair en elle ne consume pas l'humanité de la Vierge, ne détruit pas, ne consume pas, voilà. Mais surtout, on peut voir dans le buisson ardent, du milieu duquel Dieu se révèle à Moïse, un symbole fort de la révélation trinitaire, fournaise ardente de charité. Alors là, il est temps que je vous lise ce que dit Jean-Paul II. Le cœur de Jésus brûle d'amour, fournaise de charité. La fournaise brûle. En brûlant, elle consume toute chose, aussi bien le bois que d'autres substances. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Jésus, brûle de l'amour dont il déborde. Et cet amour est l'amour pour le Père éternel et l'amour pour les hommes, pour ses fils et ses filles adoptifs. La fournaise en brûlant s'éteint peu à peu. Le cœur de Jésus, au contraire, est une fournaise qui ne s'éteint jamais. En ceci, dit Jean-Paul II, il ressemble à ce buisson ardent du livre de l'Exode, dans lequel Dieu se révéla à Moïse. Le buisson était embrasé, il ne se consumait pas. En effet, l'amour qui brûle dans le cœur de Jésus, et c'est ça qui est tellement important pour nous, en effet, l'amour qui brûle dans le cœur de Jésus est surtout l'Esprit Saint, dans lequel le Dieu Fils s'unit éternellement au Père. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Dieu homme, est étreint par la vive flamme de l'amour trinitaire qui ne s'éteint jamais. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. Alors là, même par rapport au message de Parilmonial, il ne cite pas Parilmonial ici, mais j'aime bien, il y a toujours un côté un peu poétique chez Jean-Paul II, il était poète, très courte phrase. « Tandis qu'elle brûle, la fournaise illumine les ténèbres de la nuit » et réchauffe les corps glacés des voyageurs. C'est très beau parce qu'on peut être assimilé, nous aussi, dans des pèlerins qui n'ont pas encore de patrie sur cette terre. On est dans la nuit de ce temps, la nuit de l'histoire. Et cette nuit peut être glaciale. On le voit bien, ne serait-ce qu'à cause des événements. Eh bien, nous avons ce buisson ardent, ce feu, pour notre pèlerinage terrestre, en attendant donc d'être pleinement dans le feu de l'amour de Jésus. Donc voilà par rapport à la fournaise ardente de charité. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire. Là, vu le temps qu'il me reste, je ne peux que citer d'autres passages enflammés, si je peux dire. C'est-à-dire, vous avez le cantique des trois enfants dans la fournaise aussi, qui est très éloquent. La fournaise, elle est là pour brûler et détruire. Eux, au contraire, c'est le lieu de leur louange, le cantique des enfants. Ils prennent à témoin toute la création. Vous les étoiles, vous les astres, vous le soleil, la lune, vous les anges, bien sûr, la création invisible, etc. Louez le Seigneur. Ils se promènent dans cette fournaise. Et il y a un ange qui les accompagne dans cette fournaise ardente. La fournaise qui était faite pour détruire, voilà qu'elle est porteuse de leur... les révèle à eux-mêmes pleinement. Ils s'épanouissent dans la louange de Dieu. Il y a un petit peu de ça aussi dans la fournaise ardente du cœur de Jésus. Au cours de la deuxième grande apparition, comme je l'ai déjà signalé, Marguerite Marie voit les plaies de Jésus comme des soleils. Et puis, il y aura un autre épisode que je vais nommer après. Les soleils, ici, doivent être mis en lien avec un passage connu de Malachie, le prophète. Chapitre 3. Dans la Bible de Jérusalem, Malachie est le tout dernier livre de l'Ancien Testament. Chapitre 3, verset 20. Où il y a alors justement les deux aspects que je vous disais. La fournaise peut détruire, la fournaise au contraire peut donner vie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme un four, comme un four. Ils seront comme de la paille, tous les méchants, tous ceux qui ont résisté à la grâce. Ils sont consumés. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Avec la guérison dans ses rayons. Je fais une petite parenthèse là parce que c'est intéressant d'un point de vue théologique aussi. Là, je cite, alors, vous ne l'avez pas connu, c'est mon parrain bien-aimé, celui par qui j'étais complètement converti, qui a changé ma vie, qui m'a donné la vie, je dirais, et qui est parti vers le Seigneur récemment, donc à l'âge de 90 ans. Et beaucoup de paroles qu'il m'a dites sont restées profondément gravées. Alors, il me dit lui-même, tu sais, pour vivre dans une flamme aussi ardente que celle du cœur de Jésus, il faut que nous devenions nous-mêmes des flammes, sinon on va brûler. Et toute notre vie ici terrestre est faite pour devenir peu à peu cette flamme. Je mettrai en vous, j'ôterai votre cœur de pierre, dit Ézéchiel, je mettrai en vous un cœur de chair, mais il faudrait aller plus loin, un cœur de feu. Et du coup, il m'a éclairé sur quelque chose que je comprends mieux. Alors, ce n'est pas la seule explication, mais il dit en fait, voilà, ce feu détruit ceux qui résistent et il accueille ceux qui deviennent feu, comme lui. Pour pouvoir. Et alors, par rapport à l'enfer, il m'a dit, le feu de l'enfer, en fait, ce n'est rien d'autre que le feu de l'amour de Dieu, qui ne peut pas faire autrement, parce qu'il est Dieu, que de continuer à aimer toutes ses créatures, y compris le démon, c'est sa créature. Dieu ne peut jamais cesser d'aimer. Et c'est un feu. Mais si on résiste à ce feu, avec toute la force de sa liberté, etc., alors cet amour nous brûle. C'est ça aussi le feu de l'enfer. Tandis que nous, justement, eh bien, on essaye de résister de moins en moins et de nous laisser enflammer. Donc, je trouve que ce livre de Malachie, là, c'est très beau, cet enchaînement. Ils seront comme la paille, ceux qui résistent, mais pour vous, soleil de justice, avec la guérison dans ses rayons. Et justement, donc, lorsqu'on va adorer devant le Saint-Sacrement et qu'on a ça en tête, on est, je dirais, devant le soleil eucharistique du cœur de Jésus et on se laisse visiter par ses rayons. Mais il y a un lien encore plus important par rapport à cette citation de Malachie qui concerne Marguerite Marie. C'est la grande vision qu'elle a eue 2 ans avant sa mort, le 2 juillet. À cette époque-là, c'était le 2 juillet qu'on célébrait la visitation. Le 2 juillet 1688. Donc, fête de la visitation, grande solennité au couvent. Et là, elle a une vision de gloire. Elle voit Jésus d'abord sur un trône de flamme. La flamme qui symbolise encore l'amour ici. Et elle voit beaucoup de personnages. Entre particuliers Claude la Colombière qui était déjà mort 6 ans auparavant. Et puis la Sainte Vierge qui lui apparaît et qui lui parle. Et qui lui dit explicitement, qui définit le cœur de son divin fils, qu'elle lui montre. Le cœur de Jésus était visible sur le trône. Elle lui dit voilà le soleil de justice. Faisant référence donc au livre de Malachie avec la guérison dans ses rayons. Donc, voilà le vrai soleil de justice. Et c'est intéressant de voir comment justement les paroles de la Vierge font référence ici à l'Écriture, vous voyez ? Voilà la Vierge qui gardait toutes choses dans son cœur et donc qui ici cite ce passage de Malachie. Voilà, le feu est aussi présent dans d'autres passages du message de Parhelmonial, comme dans d'innombrables passages de l'Écriture. Dans l'Écriture, rappelons que le feu est aussi symboliquement le lieu de la purification. Le lieu de la sanctification qui brûle les péchés. En particulier, rappelez-vous, le fameux passage de la vocation d'Isaïe, Isaïe chapitre 6, lorsqu'il dit « Malheur à moi, j'ai vu le Seigneur et je suis un homme aux lèvres impures, au cœur impur, etc. » Et là, c'est un ange qui vient, un séraphin, qui vient lui brûler les lèvres avec du feu, avec un tison, pour purifier. « Voilà que cela a purifié tes lèvres. Tu es prêt à annoncer maintenant ma parole. Qui enverrai-je, dit Dieu, me voici. » Envoie-moi. Donc, lieu de purification. Alors, il y a beaucoup de choses. La fameuse citation que j'aime beaucoup, justement que j'avais notée un peu in extremis, c'est dans le livre d'Isaïe, chapitre 31. Oracle du Seigneur, dont le feu est à Sion et la fournaise à Jérusalem. Et pour que nous devenions feu nous-mêmes, voilà ce que dit Jésus aussi une fois à Marguerite Marie. C'est pour te rendre comme un sanctuaire où le feu de mon amour brûle continuellement. Elle devient temple de Dieu, elle devient un sanctuaire où le feu de mon amour brûle continuellement et ton cœur est comme un autel sacré où rien de souillé ne touche, l'ayant choisi pour offrir à mon Père éternel des sacrifices ardents. C'est pour te rendre, toi, Marguerite Marie, donc, comme un sanctuaire où le feu de mon amour brûle continuellement. Et elle en a fait l'expérience lors de la première grande apparition. Justement, lorsque son cœur a quitté son corps, à la demande de Jésus qui lui a demandé son cœur, elle le supplie de le prendre, et son cœur est plongé, elle le voit comme un petit atome dans un feu, dans le feu de l'amour du cœur de Jésus. Et au bout d'un certain temps, son cœur lui est rendu tout embrasé, enflammé par l'amour. Elle en gardera d'ailleurs une douleur physique au niveau du cœur jusqu'à la fin de ses jours. Mais surtout, elle aimera avec l'amour même du cœur de Jésus. Et ça, c'est aussi notre vocation, devenir temple du feu de l'amour de l'Esprit-Saint, devenir sanctuaire pour Dieu. le temps passant un petit peu vite, je voudrais encore vous citer d'autres passages de Marguerite Marie. On quitte pour le moment le domaine du feu. Voici la robe d'innocence dont je revêts ton âme, afin que tu ne vives plus que de la vie d'un homme Dieu. C'est-à-dire que tu vives comme ne vivant plus, mais me laisser vivre dans toi, car je suis ta vie, et tu ne vivras plus qu'en moi et par moi, qui veut que tu agisses comme n'agissant plus, me laisser agir et opérer en toi, et pour toi, me remettant le soin de tout. Tu ne dois plus avoir de volonté que comme n'en ayant plus, en me laissant vouloir pour toi en tout et partout. Voici la robe d'innocence. On retrouve ici des thèmes chers aux prophètes, surtout Isaïe. Il m'a recouvert du manteau de l'innocence. Là, c'est Sion qui parle, Jérusalem qui parle symboliquement, comme la fiancée. Il m'a recouvert du manteau de l'innocence comme une mariée. Et dans le Nouveau Testament, bien sûr, pour que tu ne vives plus que de la vie d'un homme Dieu, c'est évident que là, c'est imprégné complètement. Les paroles mêmes de Jésus sont celles qui ont imprégné saint Paul dans l'Épître aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Bien, il est temps, je crois, que je mette fin. Je n'ai pas fait le tiers de ce que j'avais prévu, mais je voudrais quand même terminer comme une sorte de point d'orgue. La fameuse vision des trois cœurs, qui est représentée sur un tableau au-dessus des reliques de Saint-Claude, dans la chapelle Saint-Claude. Un jour que Claude célébrait la messe à la Visitation, au moment de recevoir la communion, Marguerite Marie, qui recevait la communion de ses mains, elle voit les trois cœurs, celui de Jésus, en grand cœur, puis deux cœurs plus petits, celui de Claude et le sien. Et c'est ainsi, et Jésus lui dit à ce moment-là, c'est ainsi que mon pur amour unit ces trois cœurs pour toujours. Mystère eucharistique, qui est le centre et le sommet du message en fait de Parélemonial, mais aussi de l'Écriture, si on y réfléchit bien. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, et c'est le Verbe de Dieu qui parle. Avec l'Eucharistie, on ne reçoit pas seulement un corps biologique ou anatomique, on reçoit la parole de Dieu faite chair. L'Eucharistie est le summum de la parole de Dieu. Et dans la messe, vous avez les deux parties, la liturgie de la parole pour que nos oreilles le reçoivent. Et la deuxième partie, c'est pour que nos cœurs, notre chair même reçoivent cette parole. Qu'on devienne ce corps du Christ. Donc, mystère eucharistique qui peut être synthétisé par ce verset qui est éminemment eucharistique, qu'on lit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. » Celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui pour prendre mon repas, lui près de moi, moi près de lui. Et puis ensuite la victoire. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger sur mon trône comme moi-même j'ai siégé sur le trône de mon Père. Tout se résume là-dedans. Celui qui accueille l'amour du cœur Jésus comme Marguerite Marie, comme Saint Jean, et qui le laisse entrer. Alors il y a cet échange, ce repas. Un père de l'Église dit qu'on pourrait être un petit peu intimidé. Lui, il nous nourrit de façon infinie et nous, qu'est-ce qu'on donne? Eh bien, le père de l'Église dit, ben justement, il se délecte de notre pauvre nourriture que nous voulons bien lui donner, si médiocre soit-elle. Eh bien, Parélemonial est là. Le cœur de Jésus se fait mendiant pour que nous le nourrissions, le consolant et que nous entrions dans son feu d'amour. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Je pense que vous avez au moins noté toutes les références que je vous ai données, les références bibliques. Alors sinon, quand même, mais alors là c'est un petit peu sans fin, j'ai écrit tout un texte sur le cœur de Jésus dans la Bible, dans l'Écriture sainte. Et je crois qu'on le trouve sur le site des sanctuaires. On peut pas l'imprimer. Mais il est sous forme de PDF, donc. Vous pouvez le regarder, il y a 137 pages. Voilà. mais c'est d'une exploration assez soutenue du message du cœur de Jésus à la lumière de l'Écriture. Voilà.